Voici le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marc, bonjour à tous. À la une ce matin, une performance médicale unique au monde. L'histoire d'un homme qui a reçu une greffe de visage pour la deuxième fois de sa vie. C'est à une équipe française que l'on doit cet exploit. L'équipe du professeur Lantieri, témoignage dans un instant. Le conflit à la SNCF, quatrième round, deux nouvelles journées de grève en perspective. Et là, ce sont ceux qui font la navette entre Paris et les grandes villes qui trinquent. Ils demandent le remboursement de leur abonnement très coûteux. De la prison avec sursis pour les premiers zadistes condamnés, mais une situation qui reste bloquée à Notre-Dame-des-Landes. Un blocage qui commence à coûter cher, 30 000 euros par zadiste selon nos calculs. Des policiers municipaux devant certaines écoles, c'est la dernière idée en date du maire de Nice pour lutter contre le terrorisme. Vous recevez Christian Estrosi à 8h20, Marc.
Oui, avec quelle efficacité, hein, effectivement, pour lutter contre Daesh. Quel risque également. Avec lui, on parlera aussi de cette loi asile et immigration. Est-ce une loi de droite, comme le dit la gauche. Christian Estrosi, invité du Grand Entretien, 8h20, 8h40. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
Au menu également, un nouveau blocage d'université, celle de Rennes 2, bloquée jusqu'à la fin du mois. Une deuxième nuit de violence dans le quartier du Mirail à Toulouse. Le grand oral d'Emmanuel Macron devant les députés européens et une affiche de foot inédite ce soir en Coupe de France. Deux clubs de national s'affrontent pour une place en finale au Stade de France. Jérôme a 41 ans, mais il a le visage d'un jeune homme. Un visage qui n'est pas le sien, c'est même son troisième visage. Jérôme est atteint d'une maladie génétique. Il a déjà fait l'objet d'une greffe, mais elle n'a pas tenu. Et il est aujourd'hui le premier homme au monde à avoir subi deux greffes totales de visage. Une prouesse médicale, une première mondiale que l'on doit à l'équipe du professeur Lantieri. L'opération a eu lieu en janvier dernier à l'hôpital Georges Pompidou. Une opération qui s'annonçait très délicate. Véronique Julia a rencontré l'équipe de l'hôpital.
Jérôme a 43 ans et souffre d'une maladie génétique qui l'a défiguré. Une première greffe du visage en 2010 s'était bien passée, mais dès 2016, Jérôme a commencé à rejeter le greffon. Le visage s'est nécrosé, il a fallu lui retirer début novembre. En attendant de trouver un donneur, Jérôme a donc vécu pendant 2 mois aux soins intensifs, sans visage, la chair à vif. Une épreuve qui laisse admiratif l'un de ses médecins, le professeur Bernard Chollet.
Il fallait recouvrir ses yeux puisqu'il n'y avait plus de paupières, il n'y avait plus de nez. Il ne pouvait pas bien articuler parce qu'il n'avait pas de lèvres. Quelque chose extrêmement violent et choquant. Ce garçon a une force de caractère incroyable.
Le 15 janvier dernier, les médecins ont finalement trouvé un donneur. 22 heures au bloc pour une intervention particulièrement délicate, car la deuxième greffe est techniquement beaucoup plus difficile à faire. Les tissus, explique le professeur Laurent Lantieri, sont beaucoup plus abîmés.
Vous arrivez sur un terrain qui a été opéré plusieurs fois. Il y a des cicatrices. Ces cicatrices, c'est dur, c'est difficile de disséquer. On a du mal à retrouver des vaisseaux de calibre suffisant pour pouvoir se rebrancher de nouveau.
Autre difficulté, le patient ayant développé beaucoup d'anticorps contre le premier greffon, il risquait de rejeter violemment le deuxième. Il a donc fallu nettoyer son sang et lui donner beaucoup d'antirejets qui ne sont pas sans effets secondaires. Toujours hospitalisé, Jérôme attend maintenant que ses nerfs repoussent pour que son visage retrouve de la mobilité.
Véronique Julia du service Santé de France Inter, l'histoire de Jérôme et de ses deux greffes de visage à retrouver également en images sur notre site franceinter.fr.
8h04, la colère des cheminots redouble après la dernière annonce de la direction de la SNCF.
Le groupe ferroviaire a annoncé hier son intention de filialiser le fret SNCF. En clair, de séparer cette branche très déficitaire du reste du groupe. Les syndicats y voient une provocation des autorités et appellent les salariés à se mobiliser pour cette quatrième session de 2 jours de grève qui commence ce soir. On en saura plus dans l'après-midi sur l'ampleur du mouvement. Un mouvement qui affecte tout particulièrement ce que l'on appelle les naveteurs, ces usagers qui font la navette, l'aller-retour en TGV chaque jour pour le travail. Ils payent des fortunes en abonnement chaque mois et demandent dans une pétition à être remboursés. Charles de Quillac.
Alexis habite à Lille. Chaque jour, il parcourt près de 200 km en TGV pour aller travailler dans la région parisienne, compter 2 heures de trajet aller-retour.
Ça vous coûte combien par mois ?
Je suis en gros à 700 euros par mois. C'est énorme, c'est colossal, ouais. C'est le prix d'un loyer, c'est vraiment beaucoup.
Et forcément, depuis le début du mois, il vit au rythme des épisodes de grève.
Si l'employeur le permet, une solution de télétravail, mais c'est généralement une journée par semaine et pas plus. Ou alors dormir sur place ou du covoiturage ou ce genre de choses. C'est forcément des frais en plus, c'est de la fatigue en plus au niveau du covoiturage, ça s'accumule quoi.
Chez les abonnés SNCF, la colère monte. Une pétition en ligne réclame le remboursement de tous les abonnements TER ou TGV durant les mois de grève. C'est Arnaud Vanel, un autre navetteur, qui en a eu l'idée.
On aimerait que la SNCF prenne en compte nos problèmes quotidiens et non pas uniquement le fait de circuler des trains. Pour nous, le vrai problème, c'est quoi ? C'est qu'on est dans l'incapacité de se rendre au travail. Donc ceci nécessite forcément un remboursement.
La SNCF assure rembourser les usagers lorsque le trafic est inférieur à un train sur trois, insuffisant pour les plus de 35 000 signataires de la pétition.
La direction d'Air France lâche un peu de lest face aux syndicats qui demandent 6% d'augmentation. La direction propose 2% de hausse immédiate et 5% sur les 3 années à venir. Proposition insuffisante pour l'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de grève. Aujourd'hui, Air France prévoit malgré tout d'assurer 70% de ses vols, mais seulement 55% pour les longs courriers. Direction le bocage nantais, un bocage devenu un véritable bourbier depuis quelques jours. Hier, première décision de justice, le tribunal de Nantes a condamné 3 zadistes de Notre-Dame-des-Landes, 3 personnes qui écopent de 5 à 6 mois de prison avec sursis pour les violences commises sur des gendarmes ce week-end. Des décisions qui ne risquent pas d'apaiser la situation sur le terrain. Cela fait plus de 8 jours que les zadistes et leur soutien tiennent tête aux forces de l'ordre. Un conflit qui commence à coûter très cher à l'État. Thibault Lefebvre a donc sorti sa calculette, environ 300 000 euros par jour.
Premier poste de dépense et de loin, le personnel, 25 escadrons de gendarmerie, 7 compagnies de CRS, près de 3000 militaires et policiers qui se relaient depuis plus d'une semaine à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi à Rennes et à Nantes. Coût des indemnités journalières, 40 euros par tête, environ 120 000 euros en tout. Il faut ajouter les repas et l'hébergement, un peu plus de 150 000 euros. Et le matériel, un hélicoptère, 1500 euros par heure de vol, l'appareil fonctionne en moyenne une heure par jour. Les munitions, entre 30 et 50 euros selon le type de grenade. Les gendarmes en ont envoyé au moins 1500 depuis le début de l'opération. Plus difficile à évaluer, les coûts de déblaiement, les soins des gendarmes blessés et à plus long terme les dégâts matériels ou la réfection des routes. Le retour à l'ordre, toujours précaire, aurait déjà coûté près de 3 millions d'euros. C'est 30 000 euros par zadiste expulsé.
Le mouvement dans les universités commence à se cristalliser lui aussi. 4 universités sont toujours bloquées, dont Tolbiac et Nanterre, où les partiels prévus hier ont été reportés. Une nouvelle assemblée générale aura lieu ce matin. À Montpellier, le préfet qui avait refusé jusqu'ici de faire intervenir les forces de l'ordre envisage de plus en plus un déblocage par la police, mais sans évoquer de date. Et puis à Rennes, l'université Rennes 2 est bloquée depuis hier soir jusqu'au 30 avril. Décision prise lors d'une AG de près de 5 heures qui a réuni 4000 personnes.
Une nouvelle nuit de violence, c'est la deuxième de suite dans le quartier du Mirail à Toulouse.
Ouais, des dizaines de jeunes affrontent la police, cailloux contre gaz lacrymogène. La première nuit, une dizaine de voitures ont été brûlées. 2 événements semblent à l'origine de ces échauffourées. Le contrôle d'identité d'une jeune femme en niqab la semaine dernière et la mort d'un jeune du quartier retrouvé pendu en prison. Le reportage au Mirail de Frédéric Bourgade.
Au-dessus des bâtiments, un hélicoptère. Il traque dans son faisceau lumineux les jeunes émeutiers. Sur les coursives, des familles regardent et certains habitants s'inquiètent de cette violence.
Il y a un conteneur de poubelle là qui a pris feu. Il y a une voiture derrière ce bâtiment qui a pris feu. J'ai déjà donné pour ma voiture. Elle a déjà été cramée.
La police ne laisse entrer personne dans le quartier.
Est-ce qu'ils prennent du gaz pour rien ? Vous allez dormir là-bas ?
On va dormir. Tire de mortier sur deux caisses. Mais aussi tire de mortier.
La colère des jeunes vient d'une rumeur. Elle raconte que la pendaison d'un détenu du quartier disciplinaire est suspecte.
Déjà, quand ça se passera bien dans les prisons, on ne viendra pas mettre le zbeul dans les cités.
Est-ce que vous êtes certain, malheureusement, que ce jeune homme de 26 ans est bien mort, comme vous dites ?
Je pense, parce que...
La famille qui vous a dit ça ?
Non, c'est pas la famille, c'est tout le monde, ça en parle de partout. Je veux vous dire que quand vous appelez à l'interphone pour avoir de l'aide, il n'y a pas d'aide.
Les violences ont ainsi duré une partie de la nuit. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Inter.
Un premier tir de barrage au Palais Bourbon contre le texte du gouvernement sur l'asile et l'immigration. Le débat a commencé hier soir. Une loi jugée trop petite par la droite, inhumaine par la gauche. Alors que le gouvernement, par la voix de Gérard Collomb, plaide l'urgence de la situation. Au cœur de la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur, il y a la volonté d'accélérer les procédures pour le droit d'asile et l'intégration plus rapide des réfugiés. Aujourd'hui, même avec des papiers, c'est encore un véritable parcours du combattant. Julie Pietri a rencontré un couple de Syriens qui a obtenu le statut de réfugié il y a 3 ans.
Ils vivent aujourd'hui dans un appartement de banlieue parisienne. Loyer, 900 euros par mois qu'ils seraient bien incapables de payer sans l'aide d'une association. Armad et Rouloud, la trentaine, un bébé d'un mois, racontent leur début chaotique.
Quand on est arrivé, on n'a pas trouvé hébergement. On a contacté avec France Terre d'Asile. Ils m'ont donné une chambre dans un hôtel de SDF. On est resté un an, mais c'était vraiment horrible, c'était très long.
Au départ, ils n'ont pas le droit de travailler, mais ils ont besoin d'argent, alors comme beaucoup, ils trouvent des emplois sous-payés, au noir, dans la restauration. Parmi les amendements attendus à l'Assemblée nationale, il y a l'accès plus rapide au marché du travail, 6 mois après le dépôt de la demande d'asile, contre 9 aujourd'hui, mais reste le problème de la maîtrise de la langue.
Vraiment, on a besoin de quelqu'un de professionnel pour donner le cours, pour donner le temps aussi. C'est difficile, la langue française. En Syrie, on apprend toujours arabe ou anglais.
Aujourd'hui, les cours de français par des professionnels sont proposés seulement au moment de l'obtention du statut de réfugié. Pour le couple, ça a pris 1 an et 2 mois.
Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces périodes-là ? J'ai rien fait.
4 ans après leur arrivée en France, Armad a toujours du mal à trouver une formation en web développement. Rouloud, elle, a repris des études en sciences politiques.
Le reportage de Julie Pietri, sur le terrain en Syrie, on attend demain la venue des experts de l'ONU en armes chimiques après leur avoir bloqué le passage. La Russie et les Syriens ont enfin accepté qu'ils enquêtent sur l'explosion suspecte d'il y a 10 jours dans le secteur de la Ghouta. Hier soir, la défense anti-aérienne syrienne a abattu des missiles d'origine inconnue au-dessus de la ville de Homs. Et puis Paris, de son côté, a annoncé que la France allait débloquer 50 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Syrie. A noter également cette décision symbolique de l'exécutif, la France qui a engagé une procédure de retrait de la Légion d'honneur attribuée au président syrien Bachar el-Assad. Avait été fait grand croix, le plus haut grade de la Légion d'honneur, par Jacques Chirac en 2001.
Après le palais de Chaillot, place au Parlement européen. Emmanuel Macron remonte sur le ring aujourd'hui.
Un nouveau combat pour le chef de l'État avec un grand oral devant les députés européens. Le chef de l'État délivrera ce matin un discours sur l'Europe aux eurodéputés à Strasbourg. Une première depuis son élection. L'Europe, un cheval de bataille qui aujourd'hui traîne un peu la patte. Alors Emmanuel Macron va tenter de remobiliser ses partenaires au cours d'un débat de plus de 2 heures. Cyril Graziani.
Sous le feu des questions, décidément Emmanuel Macron va une nouvelle fois s'y frotter. Après le duo Bourdin-Plenel, le président français remonte sur le ring, celui du Parlement européen. À l'Élysée, on s'attend à des joutes de Florian Philippot, du frontiste Nicolas Bay, mais aussi de Nigel Farage, député européen britannique, porte-voix du Brexit et leader d'un groupe europhobe au Parlement. À Strasbourg, Emmanuel Macron veut convaincre les parlementaires de l'urgence de transformer une Europe rongée par le doute et contrer les eurosceptiques qui, selon un de ses conseillers, propage l'idée selon laquelle elle serait un luxe. Le soir, autre arène, cette fois à Épinal, pour des consultations citoyennes. La salle fera le plein, plus d'un millier de personnes s'est inscrit pour seulement 350 places, confie l'Élysée, qui espère un débat très direct, attirer en priorité des gens qui ne sont pas convaincus par l'Europe. On aurait pu faire ça à Strasbourg avec des étudiants Erasmus, sourit un proche conseiller du président. On a privilégié un endroit où l'Europe n'est pas une évidence.
Cyril Graziani, allez, direction la Vendée avec un match inédit ce soir en Coupe de France. 2 clubs de national se disputent une place en finale au Stade de France. Les Herbiers, club vendéen donc, qui défiera Chambly, petit club de l'Oise à partir de 21h ce soir. Le match se déroulera au Stade de la Beaujoire de Nantes devant près de 35 000 spectateurs. Moment historique pour les deux équipes et particulièrement pour les Herbiers qui joueront un drôle de match à domicile. Jean-Pierre Blimeau est allé dans cette petite ville de 17 000 habitants.
L'ambiance est joviale à l'entraînement dans ce club des Herbiers où l'on prend l'événement avec philosophie. En ville, Franck, chef d'entreprise, sponsor du club, n'en revient toujours pas.
Pour l'instant, on ne réalise pas encore très bien. On sent qu'on vit quelque chose d'historique. C'est du rêve.
Pour Mario, qui tient le Café des Sports, entièrement décoré, cette demi-finale tourne même à l'obsession.
Il y a une impatience des gens de vivre cette demi-finale parce qu'il n'y a que ça qui compte en ce moment.
Pas étonnant, explique Lilian Bossard, salarié du club de très longue date.
La ville des Herbiers n'a jamais connu ça non plus. Donc on est un petit peu sur une autre planète aujourd'hui en se disant qu'on est arrivé là. Quoi.
Jordan, lui, sera le capot. Celui qui va tenter de mettre le feu ce soir dans les tribunes de la Beaujoire.
J'ai même eu des échos des gens de la région nantaise ou de la côte vendéenne qui seront aussi avec nous. On va essayer de faire des chansons assez simples.
Et ce moment historique ne doit pas inhiber les joueurs, espère l'entraîneur Stéphane Massala.
On nous arrête des fois dans la rue pour nous féliciter. C'est quelque chose qui est plutôt positif pour aller chercher une performance.
Quant au capitaine Sébastien Flochon, il espère surtout donner du bonheur à toute une région.
Ça va au-delà du foot et ça permet de donner du bonheur aux gens. Donc ce serait magnifique d'emmener toute une région à Paris.
Car pour ce club des Herbiers, une telle occasion ne se représentera peut-être jamais. Les Herbiers, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Il s'appelle Kendrick Lamar et c'est la grande star du rap contemporain pour la première fois de l'histoire du prix Pulitzer. C'est donc ce chanteur de rap Kendrick Lamar qui a reçu la distinction suprême en musique jusqu'ici réservée plutôt au classique et au jazz. À noter également que le fils de Mia Farrow lui était récompensé pour son enquête sur le scandale Weinstein. Ronan Farrow pour le New Yorker a reçu le prix Pulitzer ainsi que deux journalistes du New York Times.
Merci, c'était le journal de Sébastien Logier.